Mémoire vive, présentée par Eve Cheftel. Préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour Ada Akerman.
Bonjour.
Vous êtes commissaire de l'exposition Golem, avatar d'une légende d'argile, que l'on peut voir au Musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'au 16 juillet. Une exposition soutenue par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui explore le riche devenir de la figure du golem à travers de très nombreuses œuvres. Plus de 130, je crois.
136.
136, exactement. À travers un parcours qui mêle peinture, dessin, photographie, théâtre, cinéma, BD et même jeux vidéo. Le golem, cet être d'argile animé à l'aide de lettres sacrées, est l'un des mythes juifs les plus célèbres. Et c'est une légende à la descendance très féconde puisqu'elle a infusé dans tous les pans de la culture populaire. En tout cas, c'est ce que l'exposition démontre brillamment. De Frankenstein à Terminator, en passant par les héros des comics Marvel adaptés à l'écran. Hulk, par exemple, ou La Chose. Ada Akerman, est-ce une exposition à laquelle vous travaillez depuis longtemps ?
Alors en fait, ça fait 3 ans que Paul Salmona, le directeur du musée, m'a proposé cette très belle aventure. Et on va dire que ça fait vraiment 1 an et demi que j'y travaille de manière très intensive.
D'accord. Et alors, quelle a été, on pourrait dire, votre ligne directrice parce que pour cette exposition foisonnante et qui traite ce qui est assez original, le sujet d'un point de vue à la fois, on va dire, historique et iconographique, descriptif, on pourrait dire, mais aussi d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire la fonction du golem, le rapport à l'artiste, on va développer ces thèmes.
Alors, moi, si vous voulez, j'ai une formation d'historienne de l'art, mais j'ai toujours travaillé de manière interdisciplinaire. Et quand Paul Salmona m'a proposé de travailler sur cette question, ce qui m'a d'emblée frappée, c'était justement ce potentiel interdisciplinaire du golem. Et c'est vraiment ce à quoi j'ai tenu pendant toute la préparation et durant le parcours de l'exposition. Vous avez remarqué qu'il y a une véritable hétérogénéité de supports. C'était pas toujours d'ailleurs évident de les faire dialoguer, mais je trouvais que c'est extrêmement important qu'on ait tous les supports en permanence mêlés. L'autre difficulté, quand on a justement une telle hétérogénéité, c'est de maintenir un récit, une cohérence, ce qui est d'ailleurs une problématique golémique, mais on y reviendra peut-être par rapport à la littérature. Et donc, un de nos fils directeurs, ça a été vraiment de s'attacher à la figure humaine, parce que c'est vrai que le golem peut prendre de nombreux visages aujourd'hui, mais tout de même, ce qu'il y a en filigrane, et c'est aussi un aspect très important pour les artistes, c'est cette aspiration à se créer un double, et donc un double humain.
D'accord. Alors, on pense en général que le golem est né au XVIe siècle à Prague, enfin en tout cas c'était mon cas, et que son créateur était donc le fameux Maharal de Prague. Mais alors on apprend, grâce à cette exposition, qu'en réalité, il remonte à l'origine de l'humanité, puisque Adam se désigne finalement comme le tout premier golem. Est-ce que vous pouvez donc nous dire un mot de cette genèse du golem ?
Oui, le mot de genèse est particulièrement approprié, puisqu'en effet, la première occurrence du terme golem apparaît au livre des psaumes, au moment où un locuteur qu'on suppose être Adam s'adresse à Dieu et se désigne comme une masse informe. Donc effectivement, on est dans ce registre de l'ébauché, d'une forme qu'il faut parachever, ce qui bien sûr intéresse les artistes. Et ce qui aussi pose un paradoxe, puisqu'on a tendance à estimer qu'il y a une différence entre nous, les hommes naturels, et le golem homme artificiel. Or, en réalité, si Adam est le premier homme et le premier golem, cela signifie que nous sommes tous des golems, donc tous des êtres artificiels.
Est-ce que ce ne serait pas plutôt un homme qui n'accède pas encore à son humanité ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a une humanité qu'il faut toujours parachever et peut-être que c'est une humanité qui n'est jamais acquise. Je pense qu'avec le golem, on a énormément de réflexions sur cette thématique-là. L'humanité est quelque chose de fragile, que nous pouvons nous-mêmes détruire, que ce soit au niveau environnemental, mais aussi éthique. Et toutes ces fictions, toutes ces représentations du golem nous aident, je pense, à maintenir cette réflexion active et à garder ce cap.
Justement, dans la tradition juive, est-ce que c'est comme ça qu'il est présenté, enfin, dans les cercles
kabbalistes ? Dans les cercles kabbalistes, par exemple, au Moyen-Âge, puisque ça, c'est toute la première partie de l'exposition, hein, nous permet de nous plonger là-dedans.
Oui, puisqu'on prend cette affaire de création d'un golem extrêmement au sérieux et ça engendre énormément de débats sur le statut qu'on peut accorder à un tel être. Est-ce que c'est un être qui peut participer aux prières ? Est-ce qu'on a le droit de le tuer ? Ce qui, moi, me semble évidemment intéressant par rapport à la pensée juive, mais même aujourd'hui, de manière plus large, dans notre rapport, par exemple, aux robots, ou même avant, aux esclaves, ça pose vraiment la question de qu'est-ce qu'un être humain, quels sont ses droits, ses devoirs, et je pense que c'est encore une fois une réflexion éthique qu'il faut maintenir très active encore aujourd'hui.
Je me demandais si golem était un terme usité en hébreu, puisque donc ça veut dire masse informe, hein, on pourrait dire
Au début, mais c'est un terme que l'on utilise aujourd'hui en hébreu, mais aussi en yiddish, pour désigner quelqu'un d'un peu simplet, qui n'a pas une parole complètement développée, qui est un peu limité d'esprit, quelqu'un d'un peu rustre. Voilà. Donc ça peut être quelque chose d'un peu péjoratif, aussi une insulte. Moi, on m'a rapporté aussi que le golem pouvait être utilisé pour désigner un traître, parce que c'est celui qui se retourne contre son créateur.
D'accord. Alors j'ai entendu... où j'ai lu peut-être que quelqu'un, je crois un juif américain, avait traité Donald Trump de golem, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Vous avez eu en fait plusieurs journalistes à comparer Trump à un golem en considérant que voilà, c'était une créature qui se retournait contre ses créateurs et puis surtout qui suggérait qu'il serait difficile de le contrôler aujourd'hui. Mais ce qui est fascinant avec cette actualité politique du golem, c'est de voir qu'à l'inverse, des formations nationalistes extrêmement proches de Trump aux États-Unis ont repris le golem comme un motif antisémite, parce que ça, c'est quelque chose qu'on trouve en fait dès le Moyen-Âge. Ont repris donc ce thème de golem pour désigner le soi-disant complot juif relatif aux médias. Et donc, voilà, les détenteurs de cet empire médiatique sont comparés à des golems, des êtres sans âme.
D'accord. Alors, justement, puisque vous avez évoqué l'antisémitisme, vous montrez bien donc la légende du golem telle qu'elle est véritablement fixée, on pourrait dire, avec le mythe du golem de Prague. Donc cette légende se diffuse largement à la fin du XIXe siècle, d'abord en étant popularisée par un roman, et puis par une trilogie cinématographique, voilà, qui n'est pas dépourvue quand même de sous-entendus antisémites. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de...
Oui, en fait, c'est ça qui est assez fascinant avec le golem, c'est que c'est une figure extrêmement polysémique et ambivalente. Et cette ambivalence, elle concerne aussi justement cette pluralité de regards qu'on peut porter sur lui, y compris des regards extrêmement négatifs. En fait, d'emblée, dès les premiers récits kabbalistiques juifs, vous avez également des récits kabbalistiques chrétiens qui vont parler de la capacité des juifs à créer des golems pour les accuser de faire de la sorcellerie, de la magie noire. Donc vous voyez, d'emblée, c'est une histoire extrêmement complexe. Le golem va aussi bien servir pour les juifs à se doter d'une identité, ça va être une figure qui incarne une identité juive. Et à l'inverse, cette identité juive va être utilisée comme un repoussoir à l'aide du golem par des populations, des groupes non-juifs. Alors dans l'exposition, on le voit justement à travers le film de Wegener qui est extrêmement ambivalent. C'est un débat qui fait toujours rage hein, parmi les historiens du cinéma pour savoir si c'est un film antisémite ou au contraire qui chercherait à sensibiliser le spectateur à une condition difficile du peuple juif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde la scène de la création du golem, on est extrêmement loin des rites traditionnels. On est beaucoup plus dans un rituel de magie noire, un rituel démoniaque, extrêmement effrayant. Et le golem est présenté comme une créature qui menace tout de même un monde chrétien. On a des enfants qui sont extrêmement blonds, une madone avec son bébé qui est effrayée par le golem. Donc tout ça, évidemment, n'est pas anodin. Et même dans des films qui pourraient sembler plus légers, je pense à un film qu'on m'expose dans le parcours qui est Nuit pragoise de 1955, le rituel de création du golem est décrit comme un rituel extrêmement exotique, mais un exotisme inquiétant qu'on ne comprend pas très bien, qui échappe à l'entendement.
Occulte, quoi, un pouvoir
exactement.
Occulte.
Et c'est aussi d'ailleurs ce qu'on retrouve chez Gustav Meyrink. Vous voyez, c'est quand même très paradoxal de voir que les deux œuvres qui ont permis au golem de se populariser, à savoir le roman de Meyrink et le film de Wegener de 1920, sont des œuvres qu'on a accusées, en tout cas qu'on a pu lire comme véhiculant des contenus antisémites. C'est extrêmement paradoxal.
Et cette légende noire du golem, on va dire, donc, elle perdure jusqu'à, par exemple, elle débouche sur Frankenstein, d'une certaine façon, même si là, il n'est plus question de préjugés antisémites, mais voilà, vous montrez bien qu'il y a une ambivalence de cette figure et que pour ceux qui l'appréhendent d'abord sous la forme d'un monstre incontrôlable, il y a toute une littérature qui va s'en inspirer.
Oui, alors il y a certains historiens de la littérature qui émettent la supposition que Mary Shelley était au courant de la légende du golem lorsqu'elle écrit Frankenstein. Mais même si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave dans le sens où le golem, c'est une histoire de création et donc il va rejoindre beaucoup d'autres récits qui témoignent d'une fascination humaine à vouloir recréer la vie ex nihilo, en tout cas à se faire créateur. Et c'est aussi quelque chose que je trouve de... formidable, puisque le golem, à bien des égards, est un être de texte, un être de lettres, et bien de voir comment son corps, au fil de l'histoire, va justement s'alimenter de différents récits, de différents textes. Donc on va avoir, bien sûr, Frankenstein, mais on peut aussi retrouver Pygmalion et Galatée. Vous avez, par exemple, un roman fascinant tchèque, qui s'appelle Ganymède, de Jiří Karasek, où on voit un sculpteur qui crée un golem homme, en s'inspirant d'un jeune homme dont il est amoureux à la plastique idéale. Et donc là, on voit bien comment, non seulement en plus c'est une variante homosexuelle, mais on voit comment Pygmalion va rencontrer le golem. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est superbe. Et on aurait pu faire une exposition un peu anthropologique où on aurait comparé le mythe du golem à d'autres mythes de création. Ça aurait été extrêmement fascinant.
Alors, côté face, là on était côté pile, ou bon, je ne sais pas, à l'inverse, le golem, vous disiez, c'est comme le visage de Janus, hein, il a double face. C'est aussi, donc, pour les Juifs, en tout cas, un héros positif, un héros protecteur. Pour vous, en fait, quelle est sa fonction, en fait ? Quelle est la fonction de ce mythe dans l'histoire juive, en fait ?
Je pense que c'est vraiment ce désir d'avoir un protecteur, puisque l'histoire juive, comme vous le savez bien, traversée d'épisodes extrêmement douloureux. Donc c'est ce désir d'avoir un sauveur, voire peut-être une forme messianique. Il y a d'ailleurs, je pense, quand on regarde le film de Wegener, mais d'autres œuvres, il y a souvent un lien entre le golem et l'Égypte. Eh bien, je pense que c'est parce qu'il y a quand même en filigrane ce souvenir de la sortie d'Égypte, ce désir de sortir de l'esclavage, et le golem va drainer d'autres récits miraculeux où les Juifs ont pu être sauvés. Donc je pense que voilà, c'est d'abord cette nécessité d'avoir un protecteur qui est récurrente, et ça s'incarne, je pense, de la manière la plus éclatante dans les comics américains qu'on a exposés en nombre dans le parcours, où vraiment le golem se démultiplie en de nombreuses figures de protection, des super-héros.
Pour vous, il y a vraiment une filiation entre les super-héros et le golem.
Oui, puis c'est même pas moi, c'est-à-dire que c'est vraiment bien documenté, puisque vous avez énormément d'auteurs, que ce soit des dessinateurs ou des écrivains d'origine juive, qui fuient le nazisme et qui se retrouvent aux États-Unis et qui vont... mettre en scène, et qui vont établir une filiation très, Superman, c'est très clair, il découle du golem. C'est vraiment ce fantasme de se doter d'un protecteur aux capacités presque divines, justement.
Alors, je voulais savoir si cet aspect-là, justement, fait débat dans le sens où on pourrait dire que le golem est une idole, finalement. Et on sait que dans la tradition juive, donc, l'idolâtrie est... Et donc est proscrite. Est-ce qu'on peut y voir non seulement un nouveau veau d'or, mais aussi un reproche adressé à Dieu qui finalement ne se manifesterait pas assez dans l'histoire et ne viendrait pas assez en aide aux Juifs
Oui, alors c'est vrai qu'on peut y voir une critique à l'égard de Dieu qui constaterait peut-être un ratage dans la création. D'ailleurs, à un moment, il fait un déluge aussi pour effacer ce qui se passe. Par rapport à l'idolâtrie, alors c'est vraiment évidemment fascinant parce que là, on est dans un seuil, dans un cas un peu limite, puisqu'évidemment, il est interdit de fabriquer des idoles. Et le golem, c'est d'abord une affaire de sculpture, on modèle de la terre glaise. Alors, Moshe Hidel essaye un peu de surmonter ce paradoxe dans son livre fondamental sur le golem, en expliquant qu'en fait... Donc là, il s'appuie sur toute cette littérature mystique et kabbalistique où, vous le savez, le golem ne parle pas parce qu'on peut créer un homme, mais il ne peut pas être parfait. Et le golem doté de paroles serait l'équivalent d'un homme. Et donc, le fait que seuls des hommes purs qui ont beaucoup travaillé, qui connaissent bien les textes, n'arrivent même pas à créer un homme qui soit doté de paroles, montre bien qu'on n'est pas dans une imitation parfaite de Dieu. Et donc ça, c'est le premier point. Et cette légende, ces récits liés au golem interviendraient alors qu'en parallèle, vous avez des légendes relatives à des statues païennes capables de délivrer des oracles avec la parole. Et donc ce que le mythe du golem viendrait montrer, c'est qu'en fait, non, ce n'est pas possible d'avoir de telles statues parlantes, puisque même des hommes extrêmement proches de Dieu n'arrivent pas à créer un homme qui parle. Donc voilà, mais ça témoigne de toute façon d'une fascination à l'égard d'un certain pouvoir sculptural et de ce désir d'imiter l'homme. Après, je pense que ce qu'il faut y voir aussi, c'est surtout si on regarde les premiers textes, les premiers débats sur le golem, à savoir donc au Moyen-Âge et à la Renaissance, c'est quand même une affaire d'homme, essentiellement. Donc il y a aussi peut-être ce désir de s'affranchir, ou en tout cas de rivaliser avec la femme, pour pouvoir donner la vie.
Ah, c'est intéressant ça. Parce que alors justement, vous essayez de corriger ce travers dans l'exposition, puisque vous avez mis en avant des golems féminins. Alors par exemple, le robot Maria de Métropolis, le travail de Valérie Bellin, et également Judith Deschamps, dans une performance qui aura lieu d'ailleurs mercredi 19 avril, mettre en avant ce golem féminin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors le golem féminin, c'est vrai qu'on ne l'attend pas forcément, et il se décline sous plusieurs visages. Alors c'est vrai que dans l'exposition, on a surtout montré des golems donc femmes qui sont créées d'ailleurs essentiellement par des hommes et qui vont correspondre à un fantasme de se doter d'une compagne idéale. Et ça remonte, enfin, en tout cas nous on établit une filiation avec une légende relative au poète et philosophe Solomon Ibn Gabirol qui se serait doté justement d'une épouse artificielle parce qu'il avait des maladies de peau handicapantes qui l'empêchaient de trouver une épouse. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que vous avez des romancières qui vont créer des golems et qui vont créer des fictions mettant en scène des golems. Et c'est une manière là d'opérer un renversement, parce que le golem au féminin, ça reste une figure extrêmement soumise. Ça reste une figure qui obéit, en tout cas plus ou moins, à son créateur. Et là, quand vous avez des artistes femmes qui vont s'emparer du golem, c'est une manière de reprendre possession de ce pouvoir créateur qui leur a été...
C'est une figure d'émancipation dans
ce
cas-là.
Ça peut être une figure d'émancipation et je trouve ça assez fascinant de le voir. Et puis, on le développe un peu dans le catalogue. C'est vrai qu'il y a tout un parallélisme qu'on peut établir entre le golem justement mutique et la femme qui n'aurait pas sa parole, qui n'aurait pas son mot à dire. Le golem qui doit rester dans l'espace du foyer, qui n'a pas le droit de sortir. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'envisager le golem non pas comme un monstre, mais comme une figure de l'émancipation et de la révolte.
Alors, on parlait d'une exposition qui a une dimension réflexive forte. Alors, on le voit justement dans une des parties qui s'appelle un mythe plastique, où vous montrez bien que de nombreux artistes, en fait, se sont emparés de cette légende. Alors, pourquoi le golem, par exemple ?
D'emblée, comme je le disais tout à l'heure, c'est un récit de création, de modelage, donc. Forcément, il y a tout de suite une dimension extrêmement plastique. Mais par ailleurs, parce que le golem est extrêmement polysémique, qu'il ne cesse de revêtir des sens différents au fur et à mesure de l'histoire, ça en fait une matière qu'on peut remodeler, qui est malléable. Et donc, pour les artistes, et c'est valable pour les écrivains, le golem, c'est littéralement un être de fiction, un être qu'on peut façonner. Donc, il y a une véritable réflexion sur cette capacité à recréer le monde. Et puis, par ailleurs, le fait que le golem acquiert son autonomie, sa vie propre, c'est aussi, pour les artistes, une manière de réfléchir à ce qu'est l'inspiration. Qu'est-ce qui fait, quand vous êtes un peintre ou un écrivain, qu'à un moment, votre œuvre, elle va s'écarter du dessin initial? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, votre personnage prend vie? Et on a énormément de témoignages à ce sujet d'un personnage qui, tout à coup, évolue d'une manière différente et pas du tout conforme à ce qu'on avait imaginé. Donc, c'est aussi une réflexion sur l'improvisation, l'inspiration, et plus fondamentalement sur ce mystère qui fait qu'on passe du non-être à l'être. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, la vie s'insuffle dans une entité? Donc je pense que ça, c'est des questions qui sont très importantes pour les artistes. Et alors pour les cinéastes, c'est d'autant plus fort que le cinéma, c'est d'abord une machine à animer l'inanimé, et on ne s'étonnera pas dans ces conditions que les cinéastes soient beaucoup intéressés au mythe du golem, et au premier chef, les cinéastes d'animation. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a par exemple une œuvre de Jan Švankmajer, un des grands maîtres de l'animation tchèque, qui a grandi à Prague, qui connaît très bien le mythe du golem, et toutes ses réalisations avec ses figures en pâte à modeler, en argile, ce sont des souvenirs, des réminiscences du golem.
Alors la dernière partie de l'exposition, elle s'intéresse aux descendants, ce que vous avez appelé les descendants du golem, à savoir les robots, et on apprend que le tout premier ordinateur israélien, donc qui date quand même des années 60, c'est ça ?
C'est 64.
64, alors, qui était pas une tablette iPad, qui était qui tenait dans une pièce, s'appelait, a été baptisé Golem 1.
Oui, c'est Gershom Scholem qui tient à le faire, donc c'est important parce que Scholem, c'est vraiment le pionnier dans les études sur le golem, les études de manière sérieuse à partir des textes et plus seulement à partir des légendes. Et Scholem, il était fasciné par les parallélismes qu'on pouvait établir entre le golem légendaire de Prague et le golem nouveau de l'informatique. Il a écrit un texte fascinant à ce sujet qui s'appelle « Le golem de Prague et le golem de Rehovot » que vous pouvez d'ailleurs lire dans une réédition d'un ouvrage très important de Norbert Wiener, « God and Golem » sur quelques points de collision entre cybernétique et religion aux éditions de l'Éclat, qui est reparu cette année. Et alors dans ce texte, Scholem, justement vous mentionniez cet aspect très rudimentaire et gigantesque de l'ordinateur, mais il se dit « mais qu'est-ce que deviendront les golems dans quelques années? Quel visage auront-ils? Est-ce qu'ils pourront ressembler à des humains ?» Donc c'était fascinant pour nous puisque la réponse est là. Oui, ce sont les robots qui sont animés par l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et puis ce qui est assez fou aussi, c'est que Scholem dit, voilà, l'informatique aujourd'hui, eh bien, c'est de la mystique améliorée. Puisque le code qui servait à animer le golem avant, c'était la combinatoire des lettres hébraïques, héritée du Sefer Yetzirah. Eh bien, aujourd'hui, on a un code binaire, l'alternance du 1 et du 0, donc c'est beaucoup plus simple, c'est plus efficace, et les kabbalistes d'autrefois seraient très heureux de voir que nous en sommes parvenus à ce stade-là. Donc c'est un très très beau texte, et puis je voudrais simplement ajouter aussi que dans ce texte, Scholem s'interroge sur ce qui pourrait faire l'humanité de ces golems. Est-ce que, par exemple, les golems pourraient tomber amoureux ?
Alors ça, c'était un sujet exploré, par exemple, par une série suédoise, là, Real Humans, donc c'est très intéressant. Dernière question, est-ce que vous pensez que, je tenais à placer cette question, on va discuter avec Rachel, est-ce que vous pensez que l'avancée d'Israël en matière technologique peut trouver sa source quelque part dans, aussi dans ce mythe du golem ?
Oui, je pense. Ben déjà,
la high-tech israélienne.
Déjà, si un des premiers ordinateurs en service s'appelait Golem, oui. Hein, ça donnait une bonne base. Et puis, je pense que oui, il y a c'est sûrement très profondément inscrit, cette capacité de l'homme à se doter d'auxiliaires qui vont améliorer sa vie, qui vont le protéger, puisqu'Israël est quand même dans une position fragile, donc il lui faut doter de protecteurs.
Oui,
donc je pense qu'effectivement...
Que ça soit l'arme nucléaire, que ça soit une technologie puissante. Enfin, disons qu'on dirait qu'il y a dans le peuple juif, et en tout cas dans Israël, une confiance dans la technologie qu'on peut retrouver finalement dans ce mythe, dans son aspect positif, quoi, bien sûr.
Exactement, et je pense que c'est pour ça que vous n'aurez pas du tout le même succès par rapport à des textes qui vont utiliser le golem pour alerter contre des soi-disant dangers de la science, ils n'auront pas du tout le même succès en Israël que, par exemple, en France. Donc ça, c'est une différence essentielle, oui.
Très bien. Je vous remercie, Ada Ackermann. Je rappelle donc que vous êtes la commissaire de l'exposition « Golem, avatar d'une légende d'argile », soutenue par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, que l'on peut voir jusqu'au 18 juillet. On pourra également vous entendre le 11 juin à 11h. Vous animerez une conférence avec des projections sur les représentations cinématographiques du golem. Et à 15h ce même jour, le 11 juin, se tiendra une rencontre sur la littérature du golem, en présence notamment de Pierre Assouline, Elvire Loris et Marie-Aude Muraille. C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver, radio-rcj.info, mémoire-vive au pluriel, .net. À dimanche prochain.